Donc j'appelle Pascal pour un entretien. Il est parti. Alors en attendant, peut-être Pascal ? Il n'est pas là. Alors peut-être qu'en attendant, on peut regarder une toute petite archive des Neurotic Swingers, donc un groupe, dans un des nombreux groupes dans lesquels il a joué, juste pour le faire venir. Voilà.
Au cœur de Marseille, la balade des Neurotic Swingers. Depuis quelques années, encensés par la presse spécialisée, ils sont les fers de lance d'une nouvelle scène punk rock française. Nous les retrouvons tout près de la plaine, chez Lollipop, un café disquaire ouvert par Stéphane, le guitariste. Ici se rejoignent les amateurs de la scène alternative marseillaise et de ces groupes qui ont parfois du mal à se faire entendre des médias.
Quand nous et quand les autres groupes marseillais arrivent et jouent du rock'n'roll, il faut faire deux fois plus d'efforts que les autres, quoi, parce qu'on n'est pas pris au sérieux par tout ce qui est presse spécialisée. Et après, par rapport aux médias régionaux, il y a un peu aussi l'autre cliché, c'est-à-dire être un peu, c'est quoi, groupe punk de Marseille, il y a de suite les clichés, la crête, le pogo, la sueur et la bière. Alors nous, je crois qu'il n'y a aucun de ces groupes qui est là-dedans, quoi.
Séance acoustique rare et improvisée des neurotiques. Presque un moment de calme bien différent des concerts du groupe. Oh. Des concerts, les neurotiques en donnent dans tout le pays et aussi à l'étranger, en Allemagne et même aux États-Unis. Les fans sont nombreux, mais les ventes restent modestes. Leur dernier album s'est vendu à 3000 exemplaires. Aujourd'hui, les neurotiques ne vivent pas de la musique, mais pour la musique, avec encore des choses à dire.
Ça parle un peu des choses qui nous entourent, ou des choses aussi où on a envie de protester. Genre, on a fait un morceau qui s'appelle 35 Hours, pas donc 35 heures, qui parle un peu justement du fait en France de travailler 35 heures ou plus ou moins. Nous, on s'en fout, on n'a pas spécialement envie de travailler en fait. Quoi, voilà. Ou en tout cas, on veut garder beaucoup de temps pour faire de la musique et s'exprimer au travers d'elle.
2007 pourrait être l'année du changement pour les Neurotic Swingers, avec au programme l'arrivée d'un nouveau guitariste, beaucoup de concerts. Et peut-être un nouvel album.
Ok, donc.
Bonjour, voilà. Messieurs, dames. Merci d'être venus à l'Alcazar, si nombreux. Personne ne s'attendait à ce que vous soyez si nombreux. Marine m'avait dit écoute, s'il y a 20-30 personnes, c'est super, quoi. C'est cool. J'ai compté, vous êtes 98.
Pas mal.
Pas mal.
Pas mal pour une ville qui n'est pas censée être aussi rock que ça. C'est pas mal.
Excellent.
Alors, on t'a vu dans l'archive, donc archive de 2007 des Neurotic Swingers, juste avant la fin du groupe.
Moi, je ne jouais plus avec eux, ils m'avaient viré à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça que je ne suis pas dans les images. Regardez, je me disais, c'est quoi ce truc-là? Je ne connais pas et tout.
Bon, alors,
je m'étais disputé avec Stéphane de Lollipop, en fait. D'accord. C'est un culé, quoi. Il m'avait viré. Il m'a dit, ouais. Avec Steph de Lollipop, c'est un foiré, c'est pour ça que je ne suis pas dans les images. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous parler des nombreux groupes dans lesquels tu étais et où tu t'es pas fait virer?
Je me suis fait virer de Blyfry. Blyfry, c'était premier groupe de punk, 94. Après, j'ai joué dans Gazoleds. Là, on a commencé les choses un peu rigolotes, un peu sérieuses. C'était l'histoire du début de Lollipop, voilà, toute la bande de Lollipop, Gazoleds. Après, il y a eu Neurotic Swingers, ensuite Ich Bin Dead, ensuite Keith Richards Overdose. Et Nasser Namoun, ici présent, m'a viré et m'a dit, écoute mon pote, tu prends pas assez de drogue, tu peux plus jouer avec nous.
Alors donc,
pardon ?
Tu commences, tu es musicien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui mène justement à tous ces groupes ? Où tu nais ? Donc voilà, quel parcours te mène vers la musique ?
C'est un parcours totalement individuel. Alors j'ai rencontré 2-3 personnes dans la salle, ça me fait super plaisir de les avoir vues, notamment Stéphane Bécamel que je n'avais pas vu depuis au moins 15 ans, et je vais parler de Stéphane Raffi. À mon avis, c'est des trucs hyper individuels. Pour moi, c'est un oncle de La Poste qui travaillait à La Poste, qui m'amène The Clash quand j'avais 14 ans, London Calling. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Marseille, c'est un truc hyper individuel, mais comme les mecs de Strychnine à Bordeaux ou les mecs des Salles Majesté à Paris, j'imagine, hein, y a pas. Voilà.
Et donc hier, donc je précise que Pascal a fait un entretien avec, avec Olivier dans une autre bibliothèque et il nous parlait d'une notion, qu'il a, donc la planète Mars, et d'une sorte d'adversité en fait à laquelle on doit faire face quand on veut faire du rock ou du punk ici. Est-ce que tu peux revenir dessus?
Je sais pas. Dans la salle, il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup de cheveux blancs, les miens y compris. Mais pour ceux qui ont été jeunes et qui s'en rappellent, marcher dans les rues de Marseille avec deux ceintures à clous, les cheveux en l'air, un blouson sur lequel derrière est écrit Buzzcocks au marqueur, c'est pas évident à tous les coins de rue. Et le mec qui dit que c'est évident, c'est un menteur, quoi. Et quand tu es comme ça, tu as intérêt à marcher droit et à savoir pourquoi tu es là et où tu vas. Marseille est une ville dure, mais comme le disait John Lennon, il disait, moi je suis rocker dans une ville très dure dans les années 60 qui s'appelait, c'était Liverpool je crois, John Lennon, non hein. Tu avais intérêt à savoir pourquoi tu étais là et qu'est-ce que tu allais faire. Hein. Et Marseille, indubitablement, et ça c'est un truc que je soutiendrai toujours. Ça engendre pas forcément une facilité créative, musicale, comme peut l'engendrer Londres, Berlin, ou je sais pas, des endroits qui sont un peu plus tolérants. Quand tu viens dans des endroits, quand tu es né et quand tu as grandi, dans des endroits qui sont difficiles et pas forcément tolérants, au niveau de la marge comme peut l'être Marseille, ça engendre quelque chose qui te dit crois en ce que tu fais et marche droit dans la rue, hein, sinon t'es mal. Et ceci dit, par rebond, ça engendre des personnes qui sont authentiques et sincères dans ce qu'ils font.
Et ça engendre aussi des histoires, parce que cette notion, donc la question des histoires, de l'histoire, elle est hyper importante. Alors j'ai trouvé une citation où tu expliques, enfin une interview, tu dis « L'histoire du rock, pour moi, c'est les histoires. Et les histoires, c'est la chair et le sang des mecs qui ont vécu le rock. » Alors ça, je me sers de cette citation en fait pour faire la transition avec, avec l'autre partie finalement de ton parcours. Donc qui est un parcours d'auteur. Tu viens de publier cet ouvrage-là aux éditions Le Mot et le Reste, donc Histoire du rock à Marseille. Peut-être qu'avant de nous dire, enfin avant d'aller plus dans le contenu, donc qu'est-ce qu'il contient, voilà, de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux
le livre.
Ouais, combien de, par exemple, de façon quantitative, combien de groupes, combien d'assauts tu as inventorié, voilà.
Alors. À l'origine, je ne sais pas si Yves Dumont le reste est encore là après le buffet. Tu es là, Yves. À l'origine, moi, je voulais parler de 10 groupes. Dans mon imaginaire subjectif de Marseille, pour moi, il y avait Terrific Frenchies, Mosquitoes, voilà. Et tu vois, je montais comme ça depuis 1984 jusqu'à moi, ce que j'avais connu. Moi, je voulais parler des 10 groupes que je trouvais qui ont fait de la vraie musique à Marseille, et avec sa grande sagesse d'éditeur tout en haut de la montagne, il m'a dit ce qu'on attend de ce livre, c'est pas tes élucubrations d'individus, ce qu'on attend aussi de ce livre, c'est que ça balaye un peu plus large. Et je remercie Le Mot et le Reste, dans son infinie sagesse, d'avoir dit il faut que tu balayes plus large. Sinon, moi, j'aurais parlé que de la maison hantée. J'aurais parlé que de la machine à coudre, j'aurais parlé que du courju, un peu de drogue, un peu des conneries et garage punk, et basta. Et il m'a dit non, c'est important que tu balayes plus large. Donc, en écrivant ce livre, je parle de ça, c'est marrant parce que on est là dans une grande salle et la relation est moins proximale. J'ai fait plein d'interventions sur ce livre dans des librairies où les relations sont plus proches. Là, vous êtes plus lointain, je vais un peu me tourner. Et si vous avez des remarques et des insultes, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur pour les insultes et les remarques, mais qui viennent de moi vers vous. Hein. Et donc, putain, Momo, je te réponds direct. Et on me l'a déjà posé.
Métal, mais on parle du rock, Ouais.
Et dans les années 80, les punks, les skins, les rockers, on allait tous dans les concerts et il y avait les concerts de trash, de death metal à la maison hantée, début des années 90. Et ça, tu n'en parles pas, et ça, c'est vraiment dommage dans ton bouquin. Le reste est super bien, par contre, il n'y a pas une ligne sur les groupes de metal.
Eh ouais, bon, toi tu viens de là et je suis.
Toute la scène métal marseillaise, je la connais par cœur.
J'en ai parlé avec Stryker. T'imagines qu'il connaît bien le truc, Stryker. Je l'ai rencontré deux fois. À un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, le métal, c'est une planète à lui-même. Il y a le métal hardcore, il y a le death metal, il y a le speed metal, il y a le new metal. Le métal, c'est une planète à lui-même que moi, je connais pas. Je connais personne qui est là-dedans. Depuis 25 ans ou 30 ans que je traîne mes guêtres dans le milieu rock'n'roll, même, c'est vrai que je vais à la maison hantée, il y a souvent Pantera ou Megadeth, mais... putain, il est là, Yann ? Ah, merde ! Ah, comment ? Yann, il y a Pantera et Megadeth, souvent. Mais si tu veux... Ça a été mon point de vue subjectif, c'est que mec... Que mec qu'il arrive à Marseille et qu'il écrive le bouquin du métal dans le sud-est. Et moi je dis génial. Mais moi je me suis dit, c'est pas moi qui vais le faire parce que le métal, j'y connais rien. Autant le hardcore, qui est pas la musique, j'écoute chez moi. Mais je me suis dit, le hardcore, c'est le rock'n'roll. Parce que dans mes virées innombrables, j'ai souvent rencontré des mecs branchés hardcore avec qui on parlait d'Agnostic Front, Sick of It All. Et j'ai des anecdotes innombrables. Mais moi, dans mes pérénigrations de rocker, j'ai pas souvent rencontré de métalleux. Et, mea culpa, tu as raison, Momo, peut-être, que quelqu'un fasse le bouquin du métal dans le sud-est. Voilà. Moi, c'est pas moi qui le ferai.
Alors, tu parles pas de métal, mais tu parles de plein d'autres sous-cultures rock. Donc, qu'est-ce qui explique, selon toi, la présence à Marseille de toutes ces sous-cultures rock ou punk, d'ailleurs, hein? Comment tu l'as perçu? Comment les gens t'en ont parlé?
Alors, et c'est marrant, hein, les choses se façonnent en même temps que tu y travailles et que tu y réfléchis. Moi, j'avais jamais réfléchi à une seconde au pourquoi de l'embobineuse, au pourquoi de la machine à coudre. Et en travaillant sur le bouquin, j'ai rencontré des mecs, et notamment il y a le mec de Cat Attack, Roland, que je connaissais absolument pas, que j'ai rencontré dans le bouquin. Et il m'a dit, quand je l'ai rencontré, Cat Attack, c'est des groupes Antwin. Cat Attack, c'est plein de disques sortis, Conger notamment, dans la sphère noise. Il m'a dit, tu crois pas que si tout ça existe à Marseille, c'est-à-dire l'embobineuse à la Belle de Mai, et je ne sais pas, il y a des Marseillais dans la salle. Voilà. Vous connaissez la Belle de Mai. Moi, je suis travailleur social, je travaille à la Belle de Mai depuis 8 ans. C'est un quartier de fous furieux. Et au milieu de la Belle de Mai, tu as l'embobineuse, c'est un positionnement martien, quoi. Au milieu de Noailles, t'as la machine à coudre, qui est aussi un truc complètement martien. Et en fait, ce mec de Cat Attack, j'en ai parlé avec lui, il m'a fait comprendre que Marseille est une ville, aujourd'hui encore, complètement sauvage, paupérisée. Tout le monde s'en branle de tout, tout le monde s'en bat les couilles avec ce que ça a de violent au quotidien. Avec ce que ça peut avoir de constructif quand tu as envie d'ouvrir un petit club. C'est-à-dire, encore à Marseille, et je ne sais pas si Sam de la Sale Gueule ou il y a d'autres mecs de la Sale Gueule qui sont là, à Marseille, tu peux filer 2000 euros à un propriétaire, tu peux venir avec tes potes monter un bar en parpaing, tu mets 3 palettes et tu organises des concerts. À Marseille, c'est encore possible. J'ai eu la chance de beaucoup tourner avec les Gazoleds et les Neurotic Swingers partout en France. J'ai fait 500 concerts. À Lyon, tu peux pas. À Bordeaux, dans tes rêves les plus fous, tu le fais. Et à Paris, ils le faisaient en 82. Voilà. À Marseille, c'est encore possible.
Si on parle un peu de la méthode, de la façon dont tu as écrit, donc On voit que tu as travaillé par entretien, donc avec voilà, une approche un peu historique ou journalistique, mais il y a aussi une part, la part du témoignage et de la subjectivité qui est très importante. Donc est-ce que tu peux nous parler voilà, de la part de la subjectivité, de l'expérience dans, dans la façon dont on raconte l'histoire de cette scène ?
Alors déjà, je pourrais parler de la part de la subjectivité en tant qu'auteur, et je suis sûr que Yves Dumont et le reste se régaleraient d'un débat devant 200 personnes. Là. Évidemment que tout ça est hyper subjectif. Moi, en tant qu'auteur, j'ai dû rentrer dans une subjectivité. Si ça avait été que moi, j'aurais parlé que de la maison hantée, des années 80, de l'héroïne, et je dis pas ça pour toi, Yann, il n'y a rien à voir, je parle pour Marseille en général, hein, et j'aurais parlé que de la machine à coudre. Pour moi, subjectivement, le rock à Marseille était que là. Et après, les mecs que j'ai rencontrés, évidemment, chaque personne que tu rencontres, son créneau de subjectivité, en général, il se situe 3-4 ans. Le mec, allez, je vais parler de Kai des Terrific Frenchies, je pense pas qu'il soit là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent des Terrific Frenchies dans la salle ? Moi, je les ai vus à 17 ans. J'étais jeune fan de Johnny Saunders. Je venais de Saint-Henri, dans les quartiers nord de Marseille. Je pensais que moi, Nasser Namoun, qui est là assis, et mon frère Olivier Escobar, je pensais qu'il y avait trois mecs à Marseille qui connaissaient Johnny Saunders. Un jour, on va voir l'inauguration du Dôme, la pose de la première pierre du Dôme. C'était en 91, je crois. À Saint-Just. Et jouer, pour des raisons qu'il faudrait demander à eux, je sais pas comment, je sais pas ce qu'ils branlaient là, quoi. Jouer les Terrific Frenchies en plein air. Il devait y avoir 1000 personnes. Hein. Et les mecs, on arrive, on se gare, et jouer une reprise de Johnny Saunders, So Alone. Putain, et nous on arrive, on dit, mais c'est un truc de fou. Il y a des mecs à Marseille qui font ça. Donc, Marine, eux-mêmes, à ce moment-là, je pense qu'ils étaient dans leur sphère de subjectivité, quoi. Il se disait, ma foi, Saunders, il l'a fait il y a 10 ans avant à New York, nous on le fait à Marseille, on s'en branle. Et dans mon souvenir, putain, il le faisait bien, quoi.
Peut-être, voilà, une ou deux questions avant de passer peut-être aux questions du public, puisque je crois qu'il y a une demande.
Tu crois qu'il y a une demande du public ?
Je crois qu'il y a une demande.
Tu dis ça, c'est toi qui dis ça, est-ce qu'il y a une vraie demande du public ? Il y en a une là.
Bon.
Non, mais toi, je t'ai déjà rencontré. Non, lui, sa demande est barrée, lui, il n'a pas droit à la parole. Il a eu une fois, c'est bon.
Non, peut-être plus quelque chose sur la scène, la place du punk dans cette scène.
La place du punk dans cette scène, je veux dire. Alors attends, je réfléchis en même temps que tu poses la question. Mais moi je me rappelle. Allez, on va pas faire les vieux combattants et ça me fait plaisir de voir Momo ce soir. Je me rappelle, j'étais allé voir les 15 ans du punk à la maison hantée et je crois que c'est les rapistes qui jouaient ou les rapistes boys. Oh putain, ça vous rappelle des souvenirs, tout ça ? Et pareil, j'avais quoi ? J'avais 16 ans. Je ne sais pas, 16, 17 ans. Je m'attendais à pas grand-chose. On venait de la stack, on était à 2-3 voitures avec les potes et tout. On arrive à la maison hantée, mais mon Dieu, il y avait 250 personnes. Il y avait des punks avec des cheveux léopards, il y avait des nanas avec les barésies et tout. Ouais, mais donc, oui, donc, je ne sais pas, aussi bien, hein, aussi bien, ça aurait pu être Berlin, Kreuzberg, carrément. Et ça, je peux le soutenir devant n'importe qui. On est arrivé, c'était délirant, quoi. C'était blendax, des gens hyper lookés. Et vas-y, les futs à carreaux avec les zips, mais partout, voilà, quoi. C'était super marrant. Et c'était les 15 ans du punk, donc faites le compte, ça doit être en 92, quoi. Donc, donc j'imagine qu'il y a une bonne part. Mais de toute manière... Je veux dire, que les gens, ils montent au ciel ou qu'ils redescendent. Je veux dire, c'est pas Rossi, je sais pas s'il est encore là, Rossi, qui est venu parler du punk ce matin. Moi, le punk, c'est aussi, on arrête la forfanterie et l'imposture. Là, je veux pas faire mon Joey Starr quand il parlait de la haine de Kassovitz, mais c'est de l'imposture. C'est n'importe quoi, je veux dire, là, il a dit n'importe quoi, quartier noir avec le punk, mais je sais pas de quoi on parlait. Bref, je veux pas revenir là-dessus. Mais moi, en tant qu'amateur, à l'époque, j'étais petit musicien, on faisait notre petit groupe. Mais ce soir-là, je suis allé à la maison hantée en 92, je me suis dit, putain, ouais, il y a du punk à Marseille. Mais c'était pas une idée délirante qui est tombée dans mon cerveau. Il y avait 200 personnes qui m'ont montré ce soir que oui.
Et ce qui est intéressant, peut-être une dernière question, donc c'est, hier tu parlais de, des méthodes d'investigation ou ton approche, et donc Olivier donc, parlait du gonzo, et donc si on peut rappeler, le gonzo c'est un type d'écriture plutôt lié à la musique qui essaie de dépasser voilà, la frontière entre ce qu'on raconte et ce qu'on vit. Et est-ce que justement cette scène rock, on peut l'écrire d'autant mieux qu'on y participe en fait ?
Alors le gonzo, c'est plutôt lié à la drogue.
Oui, la drogue aussi. Et contre-culture, bon, ouais.
Ben, allez, je vais parler du livre. Là, je parle du livre, pas du rock à Marseille. Moi, c'est juste mon livre. Dans ce livre, j'ai absolument essayé, mais vraiment, de faire passer les paroles d'usagers. C'est-à-dire, c'est impossible de parler de Tarif Réduit, qui était le groupe de rock alternatif à Marseille, Tarif Réduit, je sais pas, 88-93, sans que le mec de Tarif Réduit te parle de ce qu'il a vécu. Voilà. C'était totalement impossible de faire passer qu'est-ce que c'est l'histoire du rock avec uniquement du factuel. Moi, En tant que, je sais pas, musicien, acteur, organisateur de concerts, moi, des concerts, j'en fais plus. Parce qu'après avoir perdu à peu près 8 ou 9 000 euros, j'ai dit, maintenant, je fais plus de concerts, je vais juste les voir, au moins, je perds que 15 euros, quoi. C'est impossible de rester sur le factuel. Moi, je m'en branle de savoir que l'album est sorti en 82, que le bassiste, il s'appelait Jean-Louis. Kinavera, je m'en branle de savoir que le maxi il est sorti d'abord sur Virgin et après il est sorti sur un sous-label. Je m'en fous complètement. Moi ce que je veux savoir c'est combien le mec il buvait de bière avant de se faire virer du groupe. Et je trouve que finalement le rock il est là hein. Moi ça s'appelle, pour moi ça s'appelle la chair et le sang du rock. J'aurais aimé en mettre beaucoup plus dans le livre. On est arrivé à un consensus intellectuel entre la maison d'édition et moi. Moi, j'aurais mis beaucoup plus de conneries qui auraient intéressé que mes 200 potes. Là, ça va intéresser beaucoup plus de personnes, mais j'espère qu'on est arrivé à ce consensus.
Merci beaucoup, Pascal, pour le livre.
Merci, Marine.
Questions ? Des questions, pardon ? Bon, pas de filtre, alors.
Non, lui, on avait dit non, il n'a pas le droit, lui.
Non, il n'a pas le droit. Justement, c'est pour ça. Si j'avais le droit, je ne m'exprimerais pas.
Allez, vas-y.
Voilà, donc non, je vais poser des questions rétroactives. Moi, ce qui me paraît très bizarre, c'est que j'étais pas là ce matin, hein, j'en suis désolé. Vrai que... Non, je regrette d'y être cet après-midi.
J'ai manqué Rossi, mais bon.
Voilà, j'ai manqué Rossi. Et c'est vrai qu'on parle d'un mouvement qui démarre à Marseille, on va dire, pas en 76, mais plutôt 78. Hein. Moi, j'y étais à cette époque-là. Bon, et après, on parle de rock attitude, de bière, tout ça, je suis entièrement d'accord. On pourrait parler d'autre chose, de cam, comme tu l'as dit. Mais quand même, il faut voir que c'est quelque chose qui vient de très loin et donc qui me paraît presque rétro quand tu en parles. Et c'est normal, c'est ton âge, tu n'étais pas en 80, tu n'étais pas en 76. Et donc tu parles de choses qui sont anciennes. Donc le contenu révolte à proprement parler, pour moi c'est ça le punk. Je suis d'accord avec tes histoires sur la quotidienneté, etc. Mais putain, ça remonte à très loin, c'est une vraie attitude rebelle.
Où tu vas venir, quelle est ta question ?
Laisse-moi finir. Non, j'exprime.
Quelle est ta question ? Là, en fait,
pourquoi il y a ce tel décalage ? Comment, si tu veux, tu débarques là-dedans, ben, en disant voilà, ben, en 92, mes potes, ils sont là, ils sont contents, ils vont applaudir, etc. Mais putain, mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond dans le punk. Il y a une vraie révolte. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que ça, tu le perçois ?
Est-ce que je perçois qu'il y a une vraie révolte ? Ouais, y a, dans le rock'n'roll, mon pote, il y a une grosse révolte. C'est chaud. Ouais. Carrément, ouais. Mais après, si vous me posez des questions, je suis cool, hein, je peux répondre de manière sympathique aussi. Hein. Voilà quoi. Je veux dire, surtout si vous me parlez, par exemple, de Crypt Records ou quoi, je peux être très cool. Hein.
C'est quoi Crypt Records?
Crypt Records, c'est un label de rock'n'roll.
C'est Bébert.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit Get Records, Rue Beaujolais.
Non, je parlais pas de ça. Ça va, Laurent ?
Bah, même si les échanges ont calmé quelques velléités, est-ce que...
Non, mais tout, lui, on s'est rencontrés déjà en Makeda, c'est bon. Après, des fois, il y a des moments où tu dis stop, quoi, parce que c'est bon,
est-ce tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions, on va dire, polémiques, mais tranquille.
Une petite polémique sur quoi ?
Ah non, mais j'en cherche pas. Une question, quoi. Une question qui ouvre débat. Non, pas de question. Du coup, on va applaudir notre intervenant.
Merci.